Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Samuel Bernard, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Jean-Christophe Francis et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Dernier volet donc de notre série « Vivre en temps de guerre », après avoir évoqué les conditions de la libération de la ville irakienne de Mossoul sur le point d'être débarrassée des djihadistes de Daesh, après avoir évoqué la question des viols utilisés comme armes de guerre, et puis les conditions de vie dans la bande de Gaza. Dernier volet qui va nous plonger dans la dernière étape de la guerre, celle de la construction de la paix, de la sortie du conflit, direction la Colombie.
Como jefe de Estado,
en tant que chef de l'État, je suis le garant de la stabilité de la nation. Et cette décision démocratique ne va pas affecter cette stabilité, et je vais la garantir. Le cessez-le-feu définitif et bilatéral est en vigueur et restera en vigueur.
C'est une excellente nouvelle pour la Colombie. Le processus de paix progresse, les FARC se rendent progressivement, et dans les prochains jours, nous espérons que le processus sera terminé.
Les FARC maintiennent leur volonté de paix et réitèrent leur disposition à utiliser seulement la parole comme arme de construction vers le futur.
Le président colombien Juan Manuel Santos, Sergio Jaramillo, haut commissaire des Nations Unies, et puis Rodrigo Londono, dit Timoshenko, chef de file des FARC qui avait mené les négociations avec le gouvernement. Trois acteurs de la paix en Colombie. Cette semaine, les FARC ont entamé la dernière phase de leur désarmement. Après un demi-siècle de conflit, les guerrieros sont en train de rendre les armes. Bien que retardée, cette étape décisive pour la paix est bel et bien en marche. Le désarmement est une réalité, tout comme les progrès pour consolider la paix avec les FARC et donner aux Colombiens beaucoup plus de tranquillité d'esprit, a affirmé en début de semaine le président colombien. Près de 6000 guerrieros se sont déjà rendus dans les zones prévues à cet effet, le tout sous contrôle de la mission de l'ONU. L'accord entre le gouvernement et les FARC va-t-il pouvoir se déployer sans heurts jusqu'au bout pour conduire l'ensemble de la société vers une paix tant attendue? Quelles sont les difficultés auxquelles il faudra encore faire face? Et d'ailleurs, que prévoyait précisément cet accord sur le plan du désarmement, de la justice, de la restitution des terres, de l'intégration aussi dans le paysage politique des FARC? Il y a quelques jours, le pays a été frappé par un attentat dans un centre commercial de Bogota. Faut-il craindre un retour de la violence malgré la bonne volonté des deux camps? On le sait, ce conflit a des racines multiples. C'est un conflit multifactoriel, comme disent les spécialistes. Alors, le problème de la violence pourra-t-il se régler en se contentant de mettre un terme à l'action militaire des FARC? Ne risque-t-elle pas de réémerger sous d'autres formes peut-être? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous en plateau. Daniel Pecot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, directeur d'études à la HSS, un spécialiste de la Colombie et des dynamiques de violence qui s'y joue. À vos côtés, Olga González, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes sociologue colombienne, chercheuse associée à l'université Paris Diderot. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur la question de la violence, mais aussi sur la question des migrations dans l'ensemble de la région. On va commencer peut-être avec un peu d'actualité. Il y a quelques jours, il y a un attentat à la bombe qui a été perpétré dans un centre commercial qui a emporté la vie de trois personnes, dont une Française d'ailleurs de 23 ans, mais aussi deux Colombiennes âgées de 27 et 31 ans. Le président Juan Manuel Santos a immédiatement condamné cet acte, appelant le peuple colombien à rester uni. De son côté, les FARC ont rapidement condamné également l'attentat, qualifiant cet acte d'exécrable. Le chef des FARC, qu'on appelle Timoshenko, a exprimé sa solidarité envers les victimes et leurs familles. Première question, quel lien est-ce qu'on peut établir entre cet attentat et le processus de paix qui est en cours? Et diriez-vous qu'il est de nature à perturber précisément ce processus? Olga González, on va commencer avec vous.
Bien, c'est difficile d'y voir clair. En Colombie, il y a beaucoup d'attentats. Malheureusement, à Bogota, les deux dernières années, il y a déjà eu une trentaine d'attentats de plutôt petits, enfin, avec des fois des personnes blessées et mortes, mais pas de gros attentats comme ce fut le cas dans les années 90, mais ces attentats en général ne sont pas revendiqués. Donc c'est peut-être une particularité de la Colombie, les attentats peut revendiquer, non revendiquer, ce qui fait, enfin, ce qui brouille encore plus les pistes. C'est le cas pour celui-ci, un attentat dans les toilettes des femmes. Donc, les enquêteurs essayent de relier la modalité avec des modalités d'autres attentats qui ont déjà eu lieu récemment. On installe une bombe dans les toilettes des femmes. Est-ce que ça serait les mêmes ou pas? Enfin, bref, il y a une grande diffusion quant à établir qui peut être les auteurs de ces attentats. N'empêche que, effectivement, il survient au moment où les FARC commencent à rendre leurs armes et il survient dans un climat extrêmement délétère, confus et où les forces qui s'opposent à ce processus de paix, qui se sont opposées dès le départ, sont particulièrement énervées, coriaces, et puis utilisent malgré tout cet attentat pour dire voilà ce que cela va nous conduire, ces guerrières dans la nature, ils sont capables de commettre n'importe quoi.
Quand on lit la presse colombienne, il y a un possible responsable, en tout cas il y a des soupçons sur un groupe en particulier qui s'appelle l'ENL, qui est l'Armée de Libération Nationale, qui est le deuxième groupe rebelle du pays après les FARC, et il y a un certain nombre d'observateurs qui considèrent que ce groupe pourrait être derrière cet attentat. Est-ce que cette hypothèse vous paraît plausible? Et je vous donne la parole ensuite, Daniel Pecot. Et est-ce que ce serait une manière aussi de peser sur des négociations? Parce que là aussi, il faut rappeler qu'il y a d'autres négociations qui sont en cours entre le gouvernement et précisément ce groupe armé.
Bon, ce groupe, déjà, il a dit que c'était pas eux qui avaient commis cet attentat. Il y a une hypothèse, effectivement, qu'il relierait une fraction de ce groupe à l'attentat. Mais il y a plein d'autres hypothèses, hein. C'est pas la seule. Il y a aussi l'hypothèse comme quoi ça serait un groupe mafieux. Il y en a d'autres qui disent que c'est tout simplement de l'extorsion. Enfin, des choses qui ce sont des choses qui ont lieu des fois en Colombie, pour obtenir d'être payé ou par, je sais pas quoi, un commerçant qui ne veut pas payer ce qu'on appelle là-bas le vaccin, des fois des bombes sont posées. Donc en fait, je pense que cette hypothèse comme quoi ce serait l'ELN n'est pas plus forte que n'importe quelle autre hypothèse. On pourrait plutôt regarder à qui profite le crime d'une certaine manière, ou alors comment on va l'utiliser, qui c'est qui va l'utiliser politiquement.
Qui l'utilise?
En ce moment, ceux qui l'utilisent, et de manière évidente, ce sont les opposants farouches au processus de paix, qui sont très actifs, qui ont des médias, qui ont des réseaux sociaux, et qui s'exclament contre le fait qu'il y ait des guerrilleros dans la nature, prêts à faire n'importe quoi.
Daniel Pecot, votre regard sur cet attentat et peut-être les liens, les effets qu'il pourra avoir sur ce processus de paix?
Je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit. En réalité, ce qui a choqué, c'est un attentat urbain dans un centre commercial. Il y a longtemps que ça ne se produit pas. Donc, tous les auteurs, on peut imaginer que n'importe quel auteur peut en être responsable. Il n'y a pas de raison que ça soit l'ELN. Ce qui est vrai, c'est que, il y a par exemple encore un mois ou un mois et demi, l'ELN a fait un attentat contre des policiers dans le centre de Bogota. Ce qui est vrai, d'autre part, c'est que l'ELN qui négocie a refusé de se prononcer une fois pour toutes contre la pratique des enlèvements, même si elle y recourt très peu. Mais le diagnostic est tout à fait vrai, ça profite à tous ceux qui veulent pêcher en eau trouble pour trouver des raisons de critiquer le processus de paix.
Et j'en profite pour rappeler que vous parliez d'enlèvements, il y a aussi eu des enlèvements il y a quelques jours. Et là aussi, le NL a été pointé du doigt.
Parce que c'est dans une région où l'ELN est très implantée, que jusqu'à présent l'ELN a refusé de désavouer les pratiques d'enlèvement.
Alors,
de manière générale.
Intéressons-nous peut-être au processus de désarmement qui est en cours. En vertu de l'accord qui avait été signé il y a quelques mois maintenant, on doit avoir un processus de désarmement. Alors, au départ, c'était prévu pour le 30 mai. Puis finalement, on a repoussé au 20 juin. Pour quelles raisons? Et peut-être faire un point sur la situation aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est précisément de ce processus de désarmement? Daniel Pecot, et ensuite je vous donne la parole à Gonzalez. Daniel Pecot.
Non, je voudrais faire une première rectification. On parle d'un conflit armé de plus d'un demi-siècle. Depuis 1984, la naissance des FARC, c'est très inexact. Jusqu'aux années 2000, les FARC n'ont pratiquement fait aucune embuscade. Les experts montrent une embuscade par an. Les FARC étaient alignés sur un parti communiste qui cherchait avant tout à obtenir des postes aux élections municipales. Les FARC, lorsqu'il s'est agi des conférences tricontinentales à Cuba, ont reçu toutes les critiques dans la mesure où elles étaient, et le parti communiste colombien était loin de favoriser la lutte armée. Et encore une fois, jusqu'à l'année 2000, les FARC sont très faibles, quelques foyers d'autodéfense paysanne. L'ELN, l'autre guérilla, est défaite. 1973, défaite. Il reste presque plus de combattants. Le M19 n'a pas encore montré sa capacité, etc. Autrement dit, le phénomène de lutte armée de guérilla, au contraire de ce qui se passe dans d'autres pays, s'est heurté à des obstacles. L'un d'entre eux, et non le moindre, étant que la Colombie ne pouvait pas être cataloguée comme un régime autoritaire. Certes, on pouvait critiquer bien les choses, mais de là à dire « voilà un régime autoritaire », non. Et donc, la constitution de ces différents groupes armés s'est heurtée à ce problème, et le grand changement, ça se produit en 1980, lorsque, à la fois, le narcotrafic connaît une expansion extraordinaire, les ressources minières dans des régions dans lesquelles l'État n'est pas présent. Et donc, d'un seul coup...
Il y a d'autres logiques qui rentrent en compte et qui produisent de la violence.
Ceux qui ébranlaient les institutions dans les années 80, ce n'est pas les guérillas, c'est le narcotrafic. Medellín, record des homicides dans le monde, assassinat de tous les dirigeants politiques... de beaucoup de dirigeants politiques, etc.
Mais faisons quand même un point sur ce qui est en train de se passer en ce moment, parce que les FARC sont en train de déposer les armes. Alors je disais, ils sont quasiment 6000 aujourd'hui à l'avoir fait. Il y a des zones qui sont prévues à cet effet, qui sont au nombre de 26, je crois, et les Nations Unies contrôlent justement ce processus de désarmement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
On en est au fait que, pour la première fois, ces négociations ont pu progresser, remarquablement à La Havane, dans la mesure où les FARC étaient très affaiblies du point de vue militaire.
Leur affaiblissement est l'un des éléments qui a permis effectivement l'accord de paix.
C'est un élément fondamental. Exactement. Alors qu'il y a eu différents processus de paix auparavant, qui ont échoué notamment dans les années 2000, là, les FARC sont militairement extrêmement affaiblis depuis que, à travers le plan Colombie financé par les États-Unis, les forces armées se sont extrêmement modernisées jusqu'à devenir une des forces armées les plus modernes d'Amérique latine.
Olga Gonzalez, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce processus de désarmement ? Et puis il y a une autre question qu'il faudra se poser et qui va nous permettre d'entrer aussi au cœur de cet accord de paix, qui est de s'interroger sur les garanties pour ces guerrieros lorsqu'ils désarment précisément. Qu'est-ce qu'on leur assure ?
Tout à fait, non, mais c'est tout l'enjeu actuel. C'est quelle est la reconversion de ces guerrieros ? Donc beaucoup, la majorité, ont trouvé cette issue parce qu'il n'y avait pas d'autre issue réelle pour leur vie en tant que paysans ou habitants pauvres des villes. C'est pas vraiment par la conviction. Moi, j'ai été à El Caguán, j'étais en 99 et j'ai essayé de discuter avec eux. C'est pas des gens qui voulaient discuter. C'était des soldats d'une armée. C'était les soldats des FARC. Aujourd'hui, ils sont en train de se démobiliser. Qu'est-ce qui va se passer avec eux alors que le processus est quand même très il est en train d'être mis en cause alors qu'il y aura des élections l'année prochaine en Colombie, alors que il y a des discussions en ce moment. Enfin, il y a beaucoup d'énervement, par exemple, parce que les chefs des FARC veulent avoir des gardes du corps qui soient des anciens membres des FARC. Et ça, c'est bon. Donc, il y aurait des membres des FARC armés encore autour des anciens guérilleros. C'est insupportable pour un secteur de la population. C'est en train d'être utilisé contre ce processus de paix. Alors, on pourrait s'imaginer, vu de l'étranger, qu'il y a un grand espoir, qu'on voit cette remise des armes comme quelque chose de positif. C'est pas le cas. Il y a une grande
méfiance.
Qu'est-ce
qui vous inquiète?
Ce qui m'inquiète, c'est que toutes ces forces qui s'opposent, ne l'oublions pas, le référendum a été pour le plébiscite, pour le soutenir le processus de paix a été refusé par une majorité de Colombiens. Il y a à la fois une indifférence d'un grand secteur de la population et il y a un refus aussi, une animosité contre les FARC. Les FARC sont devenus l'ennemi principal la politique colombienne s'est faite par rapport aux FARC. Les hommes politiques sont arrivés au pouvoir en raison du discours qu'ils avaient par rapport aux FARC. Et on n'est pas sorti de là. Même après avoir, s'ils se démobilisent, j'ai l'impression que on continue. C'est comme si on était encore il y a 2 ans, 3 ans, avec le type de discussions qui ont lieu.
Oui, effectivement, vous avez raison de rappeler que les Colombiens avaient été consultés sur un premier accord de paix qui avait été trouvé entre le gouvernement et les FARC. Et à la surprise générale, les Colombiens l'avaient refusé. Et on avait réalisé combien, en réalité, les clivages étaient profonds sur cette question. Souvenez-vous.
Je fais partie de ceux qui ont voté oui parce que j'en ai assez de la guerre, j'en ai assez des morts, j'en ai assez des déplacés. Je veux que les gens reviennent sur leurs terres parce que maintenant les terres sont abandonnées. Pourquoi ? À cause de la guerre.
La logique est de voter non. Moi, j'ai voté non parce que ce serait très difficile que la Colombie soit dirigée par la guérilla.
Voilà, on entend ici ce clivage. Finalement, une courte majorité, les participants avaient décidé de rejeter ce référendum sur l'accord de paix. Daniel Pecaud, c'est vrai qu'il faut revenir sur ce référendum pour essayer de comprendre ce refus. Est-ce que il faut comprendre que d'une certaine manière, la société colombienne avait peut-être peur justement de la perspective de la paix?
C'est vrai qu'il y a d'une part la rage à l'encontre des FARC et la chose paradoxale, alors que les groupes paramilitaires et quelquefois la force publique sont responsables de beaucoup des atrocités qui ont été commises, bien que les FARC en aient commises énormément. Malgré tout, l'animosité de la population va contre les FARC. C'est la première chose. La deuxième remarque, c'est que finalement, le conflit armé depuis 30 ans s'est traduit par le fait qu'il n'y a eu aucune possibilité de revendication sociale, de mouvements sociaux d'importance, ces mouvements sociaux étant soit instrumentalisés par les guérillas et donc désavoués par les régimes dans la mesure où on y voyait l'expression des guérillas, soit en but à l'extermination de la part des paramilitaires. Voilà donc un régime qui a pu mener une politique économique tranquille, orthodoxe, avec un taux de croissance relativement soutenu, sans être perturbé par des revendications sociales, notamment dans les villes, mais aussi dans les zones rurales, grâce au conflit armé. Avec la fin du conflit armé, énormément de secteurs de la population craignent que les revendications qui, depuis 30 ans, donc attendent, éclatent.
Olga González, suite à ce refus, on avait renégocié, on avait mis en place un nouvel accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être en quelques mots les grandes différences entre ces deux accords? Et puis ensuite, on va essayer de détailler un peu les différents volets, la question de la justice, la question de la restitution des terres, la question aussi de la réintégration des anciens éléments des FARC dans le paysage politique, ce qui nous fait un gros chantier. Olga González.
Le refus de l'accord de paix a été quelque chose qui a été extrêmement choquant pour l'équipe qui avait monté au bout de 4 ans laborieuse, réussi à se mettre d'accord avec les FARC sur les 6 points. C'est extrêmement délicat, compliqué. Et puis, comme ça, le 2 octobre, ça a été refusé. Alors, on n'allait pas revenir sur les, je ne sais plus, 300 pages de cet accord de paix. Je pense que ce qu'a fait le président a été d'accueillir au palais au palais présidentiel parmi les opposants les plus farouches, il y avait le secteur des églises protestantes évangéliques de type qui était très très remonté contre quelque chose qui a priori n'avait rien à voir avec le processus de paix, mais en fait c'est aussi la politique colombienne qui est un peu elle tend à mélanger les choses. Disons que le processus de paix a été aussi l'occasion pour de nombreux secteurs d'aller à La Havane et de montrer leurs revendications.
Mais quels sont les éléments qui ont changé entre le premier accord et le deuxième?
Il y a cette affaire, le point qui à l'origine ne devait pas figurer dans le processus de paix, mais qui finalement a été introduit, qui s'appelait les questions de genre, donc les questions liées aux droits des femmes et surtout des minorités sexuelles, ça a été nettoyé. Après, pour le reste, il n'y a pas vraiment eu un grand changement.
Pas de bouleversement profond.
Il y a quand même une atténuation de certaines dispositions, y compris dans le domaine agraire. Parce qu'au départ, les dispositions dans le domaine agraire prévoyaient, par exemple, qu'il pouvait y avoir effectivement saisie par l'État dans les régions où il y avait des situations conflictuelles de propriété, y compris de propriété correctement utilisée. Ça a été supprimé et cet élément de trouble qui a suscité une révolte de la part de la classe possédante a été supprimé. De la même manière, les 3 millions d'hectares qui devraient revenir à des paysans sans terre, il a été convenu, et on a insisté sur le fait, que non seulement les paysans sans terre pouvaient y avoir accès, mais encore des grandes entreprises internationales agricoles. Donc il y a eu des concessions dans ce domaine-là, et y compris dans le domaine de la justice transitionnelle, certaines concessions.
Lesquelles ? Sur la justice transitionnelle ?
Le grand problème...
Sur les conditions de détention, je crois, sur les conditions de liberté qui seraient accordées aux guerriers, je crois.
Hein. Oui, mais le problème, de toute façon, c'est difficile d'en parler, parce que dans la mesure où le plébiscite a été refusé, voilà que ceux qui auraient dû, d'un seul coup, faire accepter toutes les mesures, etc., sont les mesures qui se discutent l'une après l'autre. Oui. Donc la justice transitionnelle, pour l'instant, on est dans une situation qui choque beaucoup de secteurs. Voilà qu'il y a libération d'un certain nombre de gens responsables de crimes de guerre, tout le moins, alors que la justice pour la paix, c'est-à-dire la justice transitionnelle, n'est toujours pas mise sur pied et ne sera
pas mise sur pied. La fameuse juridiction spéciale pour la paix, qui est la juridiction qui a été prévue par ces accords.
Et donc il y a un délai, au moins qui va être de plusieurs mois, ou plus, entre le moment où il y a des mesures de libération de gens qui sont effectivement responsables de crimes de guerre et le moment où cette justice va pouvoir fonctionner. Les juges n'ont pas encore été désignés, les conditions, etc. Et donc, là,
il devait y avoir des juges étrangers, finalement, il n'y en aura pas.
Il n'y en a pas, ça a été un des changements, effectivement, dans la nouvelle mouture de l'accord.
Sur cette justice transitionnelle, et puis on reviendra à la question des terres, Olga González, c'est vrai que c'était l'une des critiques très virulentes, notamment évidemment de la part des familles des victimes qui considéraient que cet accord de paix allait accorder une trop grande impunité aux responsables. C'est une critique que l'on peut entendre.
Bien sûr, on peut l'entendre, on peut l'entendre et on peut aussi comprendre que le gouvernement, il a aussi fait des concessions aux militaires. Il y aura aussi une grande dose d'impunité pour les militaires. Il y aura une grande dose d'impunité, je pense, dans tous les cas. C'est un peu le prix à payer pour qu'il y ait un processus de paix qui avance. Après, a priori, il y a des crimes, les crimes contre l'humanité qui sont exclus de toute idée d'amnistie. Il y a les crimes politiques et ce qu'on appelle les crimes connexes qui, eux, seront amnistiables.
Je voudrais vous entendre, Olga González, sur la question des restitutions des terres qu'évoquait un petit peu Daniel Pecaud, parce que c'est vrai que ça va être une part très très importante. C'est un vrai chantier. D'abord, c'est ce qui va coûter le plus cher quand on regarde sur l'ensemble de l'accord. On parle de 40 milliards de dollars, c'est-à-dire c'est quasiment 85% du budget total de l'accord. Donc votre regard peut-être sur les évolutions aussi des modalités de restitution des terres, et puis peut-être aussi plus généralement sur le programme, parce qu'en réalité, au-delà de ces restitutions, c'est tout un programme de développement des zones rurales qui devrait être mis en place. Olga González.
Oui, en fait, le problème que l'on voit, que l'on doit se poser, c'est quel est le modèle d'économie agricole qui va être mis en place. Quand on regarde en perspective, on voit qu'aujourd'hui, la terre, elle est encore plus concentrée entre moins de mains que quand la guérilla, que dans les années 60. Donc ça, c'est frappant. Et quand on voit un peu le type de personnage qui s'était rendu à La Havane, ou le type de modèle que je pense le président Santos a en tête, c'est plutôt un modèle de type le Cerrado brésilien, avec des grandes monocultures transgéniques, c'est pour la partie orientale, des plaines orientales en Colombie. Donc, je pense que c'est le modèle qui va être mis en place. Et la restitution des terres, alors beaucoup de paysans ont été dépossédés, ça va être quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en place parce qu'il y a une opposition à ce qu'il y ait ce recensement, à ce qu'il y ait un recensement agricole et à ce qu'il y ait un impôt sur les terres. Il y a les grands propriétaires sont farouchement opposés à cela.
Daniel Pecot, continuons un petit peu sur cette question foncière, sur cette question de l'accès aux terres, et introduisons peut-être une nouvelle donnée qui est celle du narcotrafic, parce que l'accord prévoit aussi tout un plan de substitution des cultures illicites destiné à éradiquer des dizaines de milliers d'hectares de champs de coca. C'est le point numéro 4 de l'accord. Il est déjà rentré en application, en tout cas dans certaines municipalités. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots à quoi ressemble ce plan et nous dire s'il vous semble être un bon plan ?
La nouveauté, c'est qu'il ne peut plus y avoir destruction des cultures par aspersion aérienne. Donc le plan suppose l'éradication manuelle. Il se trouve que depuis 5 ans, les cultures de coca ont triplé en Colombie. Elles sont passées de 60 000 hectares à 180 000 hectares. Question, pourquoi ont-elles triplé? Quels sont les acteurs qui ont fait que ça a triplé? Différentes réponses. Les mafias qui vivent de ça. La guérilla qui a pu inciter les paysans à semer davantage, puisque le gouvernement allait racheter et compenser à mesure que les paysans éradiquaient les drogues, donc pour toucher ces sommes. Et d'autre part, vous avez tout un certain nombre de groupes illégaux qui continuent à prospérer à travers le narcotrafic, de même qu'à travers d'autres ressources minérales ou minières. Vous avez dans le sud, près de l'Équateur, aussi bien les LN. Vous avez des dissidents, éventuellement des FARC, et vous avez les groupes mafieux qui sont présents dans énormément de patelins sur le Pacifique, y compris des grandes villes comme Buenaventura, comme Tumaco, etc. Donc, c'est un problème majeur. C'est pour ça que je disais au départ, l'attentat contre le centre commercial, c'est un élément au milieu du fait qu'il y a beaucoup de situations de violence qui continuent dans de nombreuses régions de Colombie.
Olga González, sur ce point, est-ce qu'il faut craindre que le processus de paix qui est en cours ne pousse ce qui reste de guerrieros, et en particulier ceux qui n'ont pas voulu s'engager précisément dans cet accord de paix, est-ce qu'il y a une crainte de les voir s'engager précisément vers le narcotrafic? Quand on entend Daniel Pecot, on se dit en réalité c'est déjà en route.
Je pense que c'est une question vraiment très épineuse, très difficile. Vous voyez, effectivement, les cultures se sont multipliées. La quantité de cocaïne qui est produite actuellement en Colombie, l'année dernière, il y a eu 320 tonnes qui ont été saisies. 320 tonnes de cocaïne saisies. Alors on imagine ce qu'ils ont quand même pu exporter. La Colombie redevient un pôle de production, exportation de cocaïne. Malheureusement, je pense
que
c'est lié.
Vous pensez que ça va s'aggraver? Vous pensez que ça va s'aggraver?
Je pense que c'est lié aux conditions de l'accès à la terre et de la condition de vie et les inégalités. Ouais. Je pense qu'il faut relier toutes ces questions ensemble. C'est quand même la Colombie est un des pays les plus inégalitaires au monde. C'est un des pays en Amérique latine où les inégalités s'agrandissent le plus. Enfin, je pense que si les gens prennent ces risques, malgré tout, de rentrer dans ce type de vie, de cultiver. Moi, j'ai discuté avec des paysans. C'est pas quelque chose qui leur plaît, mais bon, finalement, ça leur donne.
Oui, puis certains sont carrément contraints. Certains n'ont absolument pas le choix, en réalité.
Oui, bien sûr.
Si vous êtes dans certaines. Forcés par des groupes armés.
Oui, si vous êtes dans des zones d'influence, comme on dit, de la guérilla, là, c'est sûr. Et en plus, là, actuellement, le gouvernement va vous donner, je ne sais plus, 20 millions de pesos pendant.
Donc c'est une aide mensuelle de $340, si mes informations sont.
Quelque chose comme ça. Donc c'est des sommes considérables pour des paysans qui n'ont pas accès comme ça au.
Oui, mais entre $340 par mois et être contraint par la force, par les armes de se mettre à la coca, on choisit la vie.
Et par ailleurs, les aspersions aériennes vont peut-être recommencer justement à cause de.
Daniel Pecaud encore peut-être sur ce point, et ensuite on passera à la question de la représentation politique.
Je serais juste un peu plus optimiste. Le président Santos a montré une obstination, y compris au prix de sa popularité, pour poursuivre dans cette voie. Deuxièmement, c'est un succès absolument remarquable que l'immense majorité des guerriers des FARC soient d'ores et déjà concentrés dans les zones rurales, avec effectivement dans les conditions précises, et que d'ici quelques jours, elles devraient avoir déposé la majeure partie de leurs armes. C'est un succès qui n'avait jamais été obtenu. Dans les démobilisations précédentes des guérillas, il n'y avait absolument pas eu les garanties. Ne parlons pas de la démobilisation des paramilitaires auxquels avait procédé le gouvernement d'Uribe en 2005, qui avait permis aux paramilitaires de conserver une grande partie de leur potentiel militaire.
Alors, sur la représentation politique, parce que l'accord prévoit une forme de représentation politique pour les FARC, qui vont pouvoir avoir leur parti, ils auront même des sièges qui vont leur être réservés au Parlement, je crois que c'est 5 sièges à l'Assemblée et puis 5 autres au Sénat. Donc ça veut dire que la garantie de la poursuite de la lutte, en tout cas politique, idéologique, dans un cadre démocratique est en place. C'est une bonne chose ?
Bien sûr, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose.
Tout le monde dit pas ça,
déjà, bien entendu. Je pense que c'est ce qui suscite le plus de rancune de la part de secteurs politiques installés. D'ores et déjà, les FARC ont des envoyés spéciaux, pour ainsi dire. C'est pas des membres de FARC, ce sont des gens qui partagent leur vision du monde pour établir le statut de l'opposition, qui sont déjà présents au Congrès, pour vérifier que les accords soient mis en place de manière correcte au sein du Congrès. Mais là, déjà, les oppositions sont très coriaces par rapport à ces 6 personnes qui sont à l'Assemblée. Donc, ce qu'on peut craindre là, à nouveau, malheureusement, l'histoire colombienne a déjà commis des génocides, des actes, assassinats de représentants de secteurs de la gauche. Là, ça, c'est déjà le cas. Il y a déjà des défenseurs, des gens proches des FARC ou des mouvements sociaux qui sont assassinés dans les régions, et c'est pour moi c'est une des questions aussi essentielles. Est-ce que les secteurs présents représentés au Congrès vont-ils permettre que cette partie politique, qui d'ailleurs n'a pas encore de nom, ils sont en train de réfléchir à leur nom.
Daniel Pecaud, il y a des observateurs qui sont très inquiets de voir ces forces de gauche, très à gauche, débarquer dans le paysage politique, considérant qu'elles pourraient justement faire basculer l'ensemble du pays dans un virage beaucoup trop marqué à gauche et qui provoque beaucoup d'inquiétudes dans la région. On peut évidemment penser au Venezuela, qui en est l'une des illustrations. En tout cas, c'était le sens de la sentence de l'ancien président Alvaro Uribe, qui était le chef de file du non au référendum à l'époque et qui avait dit que ces accords de paix allaient faire tomber le pays dans le castro-chavisme. Est-ce que c'est une possibilité, une crainte qu'il faut avoir, Daniel Pecaud ?
Je pense que ça a tout d'une plaisanterie. Il n'est absolument pas question qu'il y ait un mouvement d'ensemble de la Colombie avec les problèmes des réticences vis-à-vis de la transformation des FARC en parti politique. La Colombie n'est pas prête de se transformer. Comme ça a été dit, le conflit armé n'a fait qu'accroître les inégalités, mais ça ne veut pas dire que d'un seul coup, les FARC vont avoir le prestige pour mobiliser les gens. Dans beaucoup des régions dans lesquelles les FARC sont implantées depuis longtemps, les dernières élections ont montré que souvent la population votait contre les candidats des FARC, étaient lassés de toutes les influences un peu autoritaires. Et donc, l'idée que d'un seul coup, les FARC, en plus, elles ont été très maladroites. Elles ont été de maladresse. Premièrement, et c'est remarquable qu'elles aient remis l'essentiel de leurs armes. Elles ont refusé que ça soit filmé, parce qu'elles ne veulent pas une démonstration qu'elles remettent leurs armes. Et donc, on attendait de voir le spectacle de la remise et de la destruction symbolique des armes. Deuxièmement, l'autre chose, c'est que les FARC ont été prêtes à reconnaître leur responsabilité dans un certain nombre de crimes, mais on était incapable de tenir un discours en disant oui, nous avons une responsabilité d'ensemble, même si elle est moindre que celle des paramilitaires.
Mais pas de crainte majeure à avoir. On n'aura pas demain un parti politique issu des FARC qui présentera un candidat pour les élections, ce sera l'année prochaine, et qui gagnera l'élection présidentielle. Ce scénario est impossible.
Elles viennent d'avoir fait un programme qui s'appelle les 13 avril, comme Lénine autrefois, avec 48 pages de thèses ultra-dogmatiques, ultra-traditionnelles, comme le marxisme orthodoxe des années 60, je pense qu'elles sont pas, elles ne conquerront pas énormément d'électeurs avec ce genre de programme.
Et puis vous disiez que les FARC ont refusé que l'on filme justement la restitution des armes. Figurez-vous que là aussi, et c'est de la valeur du symbole, mais le symbole, on sait que c'est éminemment important. Les armes qui ont été récupérées, elles vont être fondues et on va faire 3 monuments commémoratifs qui vont être érigés en Colombie, à New York au siège des Nations Unies et puis aussi à Cuba où s'étaient déroulées les négociations. On va justement parler de la question de la mémoire. On est avec Daniel Pecco, avec Olga González. On parle de la Colombie, mais on va prendre la direction du Pérou.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Le Pérou qui a aussi connu des périodes de troubles importantes. Dans les années 80-90, les forces armées nationales et des milices d'autodéfense des zones rurales ont affronté l'organisation du Sentier Lumineux, une insurrection née d'une dissidence du Parti communiste. Le conflit avec cette guérilla maoïste a fait au moins 70 000 victimes. C'était en tout cas le bilan de la commission Vérité et Réconciliation créée en 2001. Finalement, l'organisation a fini par se déliter progressivement après l'arrestation notamment de son principal dirigeant. C'était en septembre 92, même si en réalité, le conflit n'est pas complètement éteint, que l'organisation a encore quelques zones sur lesquelles il a la main. Il y a eu d'ailleurs quelques attaques sporadiques dans le pays. Il y a une dizaine d'années, notamment une embuscade qui avait fait une quinzaine de morts. Mais quoi qu'il en soit, le pays tente de panser les plaies de cette période noire de son histoire. Et pour ce faire, on a érigé des centaines de plaques commémoratives et autres monuments aux morts. Et parmi eux, El Ojo que Llora, l'œil qui pleure, autour duquel les victimes se rassemblent.
Ahora nosotros no sabemos dónde están nuestros seres queridos.
Et aujourd'hui encore, beaucoup d'entre nous ne savent pas où sont nos êtres chers et ce qu'il s'est passé avec eux. À part qu'un jour, les hommes sont entrés dans notre maison quand nous étions en train de dormir. Ils les ont sortis, les ont emmenés et plus jamais nous avons entendu parler d'eux. Déjà 33 années sont passées sans eux.
Voilà, rassemblement de familles de victimes réunies autour de ce monument commémoratif de Lima. On va accueillir une nouvelle invitée, Dorothée Delacroix. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, chercheuse associée au Centre de recherche et de documentation sur les Amériques de la Sorbonne et vous êtes une spécialiste des politiques mémorielles au Pérou. Vous avez réalisé un long travail d'enquête de terrain, plus de 14 mois entre 2009 et 2013, au sein de 3 communautés de langue quechua du district de Toraya. On va en parler ensemble et vous êtes intéressé en particulier aux tensions mémorielles qui traversent ces communautés, au rapport au passé et aux luttes contre ce sentier lumineux. Parmi les monuments commémoratifs, il y en a d'autres et notamment la Colombe de la Paix à laquelle vous êtes beaucoup intéressé, on y viendra, mais ce monument, l'œil qui pleure, c'est un monument qui est très connu à Lima, qui est un monument qui a été construit il y a une dizaine d'années. C'est une grosse pierre noire placée au centre d'un petit labyrinthe, au milieu d'une petite place autour de laquelle on a construit un mémorial sur le conflit. Les personnes endeuillées viennent pour y laisser des fleurs, des petites pierres sur lesquelles on inscrit le nom de l'être cher dont on vient saluer la mémoire. Et il se trouve qu'en février dernier, donc il y a assez peu de temps, il a fait l'objet d'un acte de vandalisme. Il y a de la peinture qui a été jetée dessus, ce qui a provoqué la colère des familles qui ont exigé que le gouvernement assure une meilleure protection de ce site. Je voudrais essayer de comprendre cette attaque et ce qu'elle vous semble peut-être révéler précisément des tensions autour de la manière dont autour de la manière dont se construit cette mémoire et ce rapport au passé, Dorothée Delacroix.
Effectivement, en réalité, l'œil qui pleure est le premier et le principal monument élevé en hommage aux victimes du conflit armé dans la capitale. Et il est né dans le cadre de ces processus de transnationaux de justice transitionnelle. Donc la CVR que vous avez mentionné, la Commission Vérité et Réconciliation, propose comme voie à la réconciliation des réparations, tant économiques aux victimes que symboliques. Dans le cadre de ces réparations symboliques, s'inscrit des projets de monuments et aussi des exhumations des corps des victimes. Donc ce monument, il est érigé le 28 août 2005 pour le second anniversaire de la Commission de la Vérité et de la Réconciliation. Et très vite, il cristallise les tensions. Il est en fait emblématique d'un véritable conflit de mémoire au Pérou, puisque ce saccage que vous mentionnez de février dernier est déjà bien des saccages avant lui.
Alors, je vais vous couper, pardon, Dorothée Delacroix, parce que la liaison est vraiment trop mauvaise. Donc, on va essayer peut-être de vous rappeler pour faire une liaison un peu meilleure. Mais ce que je rappellerai, en tout cas sur ce cas particulier de l'œil qui pleure, El Ojo que Llora, c'est que au cœur de cette controverse, et à propos de ce monument en particulier, c'est la liste aussi des victimes qui avait été transmise par la commission Vérité et Réconciliation, dans laquelle se trouvaient également des noms de personnes qui faisaient partie justement du Sentier Lumineux et qui sont considérées par beaucoup de Péruviens comme des terroristes. Ça, c'est l'une des raisons qui explique ces controverses. Daniel Pecco, Olga Gonzalez, on va attendre que cette liaison se fasse de manière plus correcte, mais... quelle importance, selon vous, cette question mémorielle a dans le processus de paix en Colombie, dont on parlait ensemble? On n'a pas encore évoqué cette question-là, mais évidemment, on sait combien la question de la mémoire, la question de la reconstruction d'une certaine histoire, d'un certain passé, est décisive pour construire une paix durable. Qu'est-ce qui est fait en la matière et est-ce que ça vous semble satisfaisant, Olga Gonzalez?
Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites dans la matière en Colombie. Il y a déjà un mouvement de victimes qui s'est organisé depuis une bonne quinzaine d'années en Colombie et qui a commencé à travailler sur ces questions. Enfin, peut-être plus qu'une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Il y a déjà des monuments qui ont été faits. Un des premiers a été fait à Trujillo, où a eu lieu un grand massacre épouvantable commis par les paramilitaires. Et depuis, se sont multipliés plein de monuments aussi en Colombie. Mais cela, parfois, a été conflictuel, voyez-vous. Dans la ville de Montería, qui est une ville qui était plutôt un fief des paramilitaires, le monument qui a été fait, c'est plutôt une invitation. D'après Carlos Castaño, c'était une invitation à devenir paramilitaire. Donc, il y a aussi des fractures, des divisions, des enjeux autour de ces monuments. Il y a aussi des choses très belles qui sont faites par les jeunes. Enfin, il n'y a pas que les monuments, comment dire, physiques. Il y a aussi des choses plus actives, des jeunes qui font de la musique, qui font du rap, qui essayent de retisser les liens. Je pense que ça, c'est très important. Mais c'est aussi traversé. Enfin, le conflit est vivant. C'est ça qu'il faut comprendre, y compris dans la mémoire.
On va récupérer justement Dorothée Delacroix qui est avec nous. Elle est à Madrid. C'est la raison pour laquelle la liaison n'est pas excellente. Mais a priori, ça devrait être beaucoup mieux. Dorothée Delacroix, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Voilà, c'est un petit peu meilleur. Alors, on va avancer peut-être pour s'intéresser en particulier à la région sur laquelle vous avez mené votre enquête, cette région de Toraya, où vous êtes rendu, parce que là aussi, il y a un monument commémoratif qu'on appelle la Colombe de la Paix. Je voudrais que vous nous présentiez un petit peu ce monument et essayer de comprendre les controverses qu'il y a autour de ce monument, parce que ce que j'ai compris en lisant votre article, c'est qu'en réalité, il y a aussi là-dedans une forme de récupération politique d'un certain passé qui sert d'une certaine manière le discours des autorités. Dorothée Delacroix.
Effectivement, en réalité, la Colombe de la Paix peut se comprendre quand on regarde un autre monument, justement une réplique de l'œil qui pleure dans la communauté voisine de Zinke, qui a été érigée en juillet 2008. Et là, c'est pas l'œuvre des militants des droits de l'homme comme dans la capitale à Lima, mais des membres de la communauté eux-mêmes qui, dans cet effort de se dire victime et de se dire, si possible, innocente victime du conflit armé, puisque pour être reconnue comme victime au Pérou, il ne faut pas avoir fait partie de la guérilla. L'article 4 de la loi de réparation mentionne que les membres des organisations subversives sont exclus du processus de réparation. Donc, la stratégie mémorielle dans les campagnes andines, si on peut parler de stratégie mémorielle, eh bien celle-ci, celle de se débarrasser du stigmate de sentieriste, donc de passer sous le silence les choix politiques qui ont pu être faits, pour coller au mieux avec l'image d'une victime irréprochable. Et c'est également le cas dans ce village de Toraya, où là, il s'agit presque d'être mieux que de simples victimes, c'est-à-dire de tenter d'accéder à un statut au-dessus dans la hiérarchie sociale des victimes, celui de martyr de la démocratie. Les comuneros de Toraya se disent effectivement martyrs de la démocratie au nom d'un massacre qui a été perpétré par le Sentier Lumineux le 21 février 86 dans leur communauté et durant lequel ont perdu la vie 9 autorités politiques locales. Et il faut bien savoir que ce discours de mémoriel est aussi le produit de l'issue de la guerre, c'est-à-dire un État vainqueur de la subversion. Et donc Sentier Lumineux incarne aujourd'hui au Pérou la figure de bourreau idéal, et entraîne avec lui un processus de dépolitisation très fort.
Oui, et il y a dans ce discours une forme d'externalisation en réalité des anciens membres sentieristes. C'est-à-dire que dans les discours, on reconstruit une réalité dans laquelle le sentieriste en général, l'ancien membre du sentier lumineux, est forcément extérieur. Extérieur à la communauté, extérieur au village, voire même extérieur à la nation. Et les autorités s'identifient, eux, à la figure du défenseur de la démocratie. On voit très bien comment, dans la construction du discours mémoriel, on tend à rejeter les individus sentieristes qui seraient en réalité totalement extérieurs à la communauté et qui seraient arrivés finalement ex nihilo. Mais qu'en est-il réellement? Il y avait des liens quand même entre ces sentieristes et les villageois, en l'occurrence, dans le cas qui vous intéressait, vous.
Effectivement, cette figure d'un paysan andin pris entre deux feux, sans capacité d'action politique propre, est une figure clé aujourd'hui qui sert certains intérêts, et notamment ce processus d'innocentisation des victimes. Mais les communautés paysannes andines ont fait des choix politiques, c'est-à-dire que des gens ont pu prendre des armes à un moment de la guerre, et c'est effectivement à travers une enquête ethnographique de longue durée qu'on voit que cette image de martyr de la démocratie se fissure, est extrêmement fragmentée au sein même des mémoires familiales. On rappelle les questions des terres, ces grands propriétaires terriens qui ont été assassinés par le Sentier Lumineux. Et puis, on voit bien que parler de réconciliation est très difficile dans les Andes d'aujourd'hui. On peut peut-être parler de réconciliation sous couvert de dépolitisation, mais peut-être plutôt simplement d'une micro-réconciliation, c'est-à-dire de moments à peu près consensuels, de moments commémoratifs, où on tente de se montrer comme une victime consensuelle de la guerre, derrière des conflits qui ressurgissent dans plein de moments de la vie paysanne en réalité.
Merci beaucoup Dorothée Delacroix d'avoir été avec nous en direct depuis Madrid. Je rappelle que vous êtes anthropologue, chercheuse associée au Centre de Recherche et de Documentation sur les Amériques de la Sorbonne, et que vous êtes auteur de Pierre et de l'Arme, mémorialisation et discours victimaire dans le Pérou d'après-guerre. On mettra cette référence sur le site de Culture Monde. La réconciliation peut parfois passer par l'art, et peut-être même par le théâtre en particulier. On va retrouver une nouvelle invitée, parce que l'enjeu de la mémoire, il est particulièrement important aussi en Colombie, on en disait quelques mots avant, et il y a des projets artistiques pour donner la parole aux victimes. Le mois dernier se jouait la pièce de théâtre Victus à Bogota, un projet artistique et pédagogique dans lequel des anciens membres de l'armée, des anciens paramilitaires, des guerrieros et même des victimes civiles jouaient sur la même scène, chacun avec son propre rôle. On va retrouver Claudia Giron Ortiz, qui est psychologue, professeure, mais également victime de la guerre. Elle a participé à cette pièce. Elle nous présente ce projet et nous raconte comment elle a vécu cette expérience. Elle est au micro d'Anne-Sophie Pierre.
Le projet Victus est un laboratoire de réconciliation entre victimes civiles et personnes démilitarisées qui ont fait partie de groupes armés, légaux et illégaux en Colombie.
C'est un exercice à travers le théâtre et la musique, où nous participons différentes personnes.
En quelques mots, c'est un exercice utilisant le théâtre et la musique, à travers lequel ont participé différentes personnes de différentes régions du pays, pour pouvoir mettre en commun leurs expériences de la guerre, y compris des personnes affectées par la guerre, mais qui ne faisaient pas partie des factions armées du conflit. C'est très important de nous voir comme des êtres humains, avec une histoire partagée dans un pays où la guerre a été un mode de vie depuis que nous avons de la mémoire.
Et vous, Claudia Rijon? Quelle a été votre expérience en tant qu'actrice au sein de ce projet?
Je suis psychologue, pero yo también he sido víctima. Entonces me dieron la oportunidad de ser parte del grupo de los cinco civiles.
Je suis psychologue. J'ai aussi été une victime, et c'est pourquoi ils m'ont donné l'opportunité de faire partie du groupe des cinq civils. J'ai aussi été professeur à l'université, et j'ai beaucoup travaillé sur le thème autour de l'accompagnement des victimes du conflit.
Et para mí fue.
Pour moi, ça a aussi été une manière de désapprendre et d'ouvrir mon esprit et mon cœur pour sortir du statut de la psychologue et de l'experte et de parler au nom de victime civile. Parce qu'à un moment, j'ai dû sortir du pays après avoir reçu des menaces de mort. Victime, j'ai pu exprimer ma vulnérabilité en tant qu'être humain.
Vous parlez d'une idéalisation de la mémoire des victimes qui peut conduire à des formes de manipulation de l'histoire. Comment un projet tel que Victus, qui a un objectif à la fois pédagogique et artistique, permet-il de lutter contre cette manipulation de l'histoire et de retisser des liens de confiance entre ces personnes?
Pero digamos, el proyecto central es ver el arte como un vehículo donde podemos ser no solamente la puesta en escena de una historia, sino es ver
Le principal enjeu est de voir l'art comme un vecteur dont nous sommes les représentants sur scène et de se laisser surprendre en se mettant en relation avec les autres et rompre ces barrières entre le public et le spectateur. Parce qu'il ne faut pas que les comédiens se confondent avec le personnage qu'ils jouent. Il faut bien être conscient de cela, parce que d'une certaine manière, l'idéalisation de la mémoire fait que les gens prennent l'identité des personnages comme celle de la victime, et cela fait que les acteurs se sentent comme un autre, comme si le problème n'était qu'entre victime et bourreau.
Del tipo de prácticas cotidianas, de los discursos, de las maneras de ver al otro porque es negro, porque es indígena.
Nous sommes bien conscients des pratiques quotidiennes, des discours dans la manière de voir l'autre, en tant que noir, indigène, paysan, homosexuel, de gauche, de droite. Le but est donc d'essayer de voir, parmi les victimes et les bourreaux, dans un pays aussi violent, de nous voir avant tout comme êtres humains, dans une société profondément déshumanisée.
En un país donde no ha habido confianza en el Estado.
Dans un pays où il n'y avait pas de confiance dans l'État, comment est-ce que nous faisons pour retisser les liens de confiance? Nous sommes dans une phase de transition où nous remettons du contenu dans le sens d'un État social de droit, dans un pays qui n'a jamais connu la possibilité de penser vivre en paix, ce qui n'est pas simple. Faire la guerre, c'est plus facile que de faire la paix, non?
Claudia Giron, donc psychologue, comédienne au micro d'Anne-Sophie Pierry. Olga González, pardon, je crois que vous connaissez cette femme et vous connaissez ce projet artistique et pédagogique. Hein.
Oui, je connais ce projet, je connais d'autres projets semblables qui sont faits dans le pays, comme ça, à partir parfois sans beaucoup de moyens, et qui sont remarquables. Moi, je pense que c'est un peu vers là où il faut regarder tout ce qui est fait pour apporter une culture de la paix dans un pays qui a beaucoup vécu dans la guerre, qui ne sait pas discuter de politique ou de plein d'autres sujets. D'ailleurs, la violence, elle est bien au-delà de la politique. Donc, c'est toute une culture d'apprendre à vivre avec nos différences et avoir d'autres références en tête, tout ce qui se passe au Pérou, en France, ce que sais-je.
Il va falloir beaucoup œuvrer pour mettre en place cette culture de la paix, Daniel Pecaud.
Non,
sortir de la culture de la guerre.
Il y a eu un énorme travail fait sur le thème de la mémoire. Manque beaucoup un travail fait sur l'interprétation de ce qui s'est passé au cours des dernières années. Autrement dit, mémoire. Mais il n'y a pas de travail d'histoire. Il y a un désaccord fondamental sur la possibilité d'interprétation. Et finalement, le problème, c'est qu'il s'agit non seulement que l'État, pour la première fois, se rende présent dans beaucoup de régions de la Colombie, mais que nous sommes un pays dans lequel les partis politiques sont en train de se décomposer, le modèle économique qui avait prévalu depuis des années est en train de changer avec la globalisation. Et les militaires, le civilisme qui avait prévalu pendant longtemps est en train de changer puisque les militaires deviennent la force la plus moderne du pays.
Merci beaucoup à tous deux, Daniel Pecaud, Olga González, de nous avoir éclairés sur cette Colombie qui fait son chemin sur la paix. Il y a évidemment beaucoup d'obstacles, mais ça se poursuit. Et voilà, c'est le point positif qu'il faudra garder. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
Me enseñas estribillos, yo que ni sé hacerlos, voy por tus pasadillos. Con mis hermanos perros me clavan a colmillos. Tu estilito cárcero, bien con achorrios del mar a los cerros.
Et c'est avec cette chanteuse qui fait le pont entre la France et le Pérou qu'on se quitte. Billie Brolock, une rappeuse franco-péruvienne. 11h53 minutes, l'heure de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, vos trois dernières chroniques avaient tout pour déprimer. À la part des énergies d'origine fossile dans le mix énergétique mondial est désespérément stable, malgré tous les efforts consentis par les États en faveur des renouvelables. Et parmi celles-ci, la plus importante, l'hydroélectricité, justifie la construction de barrages géants qui peuvent avoir des effets désastreux sur l'environnement. N'y a-t-il, à l'horizon énergétique, aucune raison de se réjouir, Brice?
Si, plusieurs, mais pas forcément là où elles étaient attendues. Nous parlions hier des barrages géants africains, qu'ils soient réalisés comme le GIB 3 en Éthiopie ou encore en projet comme Grand Ingra 3 en République démocratique du Congo. Les gouvernements les justifient par l'énorme retard pris par l'Afrique en matière d'électricité et il est exact que la croissance impressionnante du continent exige dorénavant une demande d'électricité très rapide, d'augmentation très rapide. Alors présentant le rapport Lumière, Puissance, Action, Électrifier l'Afrique, Kofi Annan, qui est maintenant président de l'Africa Progress Panel, a récemment récemment déclaré à Abidjan, je le cite, « Le déficit énergétique continue à asphyxier la croissance, la création d'emplois, la transformation du secteur agricole et les progrès en matière de santé et d'éducation en Afrique. » D'après l'ancien secrétaire général de l'ONU, donc 620 millions de personnes, soit les deux tiers des Africains, n'ont pas accès, je le cite, à des services énergétiques durables et modernes à un coût abordable. Or, justement, l'Afrique est en train d'expérimenter des systèmes qui ont commencé à faire leurs preuves, les mini-réseaux électriques. Kofi Annan encore, la part des installations hors réseau à usage domestique et des mini-réseaux dans le bouquet énergétique augmentera progressivement afin de répondre à la hausse rapide de la demande. Strive Masiyiwa, qui fait partie de l'Africa Progress Panel lui aussi, explique comment cela fonctionne sur Project Syndicate. L'extension des réseaux électriques est lente et coûteuse. Certaines entreprises, lasses d'attendre l'arrivée de l'électricité, ont installé leurs propres groupes électrogènes et fonctionnent en circuit fermé. Mais les mini-réseaux, qu'ils soient ou non connectés au réseau principal, sont plus intéressants. Ils permettent d'alimenter en électricité des communautés locales et c'est la solution idéale pour les régions isolées. Ces mini-réseaux peuvent comporter des systèmes hybrides où le diesel n'est plus utilisé que pour compléter le solaire et l'éolien. Ils sont extrêmement souples et peuvent être exploités aussi bien à titre privé que communautaire. Reliés au réseau principal de fourniture d'électricité, ils permettent en outre de pallier aux coupures de courant dont ils prennent le relais. Leur gestion bénéficie de la révolution numérique qui permet de régler la production au plus juste en fonction des besoins.
La révolution numérique, toujours encore. Mais en quoi le numérique peut justement contribuer à la résolution des problèmes énergétiques, Brice?
Eh bien, élément de réponse dans un article très important publié par deux spécialistes dans la revue Foreign Affairs. Intitulé « La prochaine révolution énergétique », les auteurs David Victor et Kasia Kanosek montrent que ce sont les révolutions en question qui ont fait baisser de manière spectaculaire les prix du pétrole et du gaz au cours des 10 dernières années. Souvenez-vous, il y a 10 ans, bien des experts nous annonçaient un baril à 200 dollars pour cause de prochain épuisement des ressources. Aujourd'hui, le baril est à 43 dollars, ce qui s'est traduit, soit dit en passant, par une économie moyenne et par foyer de 700 dollars par an selon les auteurs de l'article. Christophe Bonnery, le président de l'Association des économistes de l'énergie, écrit à ce propos « Le propre des travaux de prospective économique est d'être faux dès qu'ils sont publiés. Tous les domaines de la prospective sont concernés, prévisions erratiques des cours du pétrole, incapacité à prédire l'émergence des gaz de schiste, défaillance des quotas sur le marché européen du carbone, camouflet de la renaissance du nucléaire non prévu. À quoi devons-nous cette baisse des prix de l'énergie qui est parmi toutes ces prévisions erronées, celle qui a le plus de conséquences à la fois économiques et environnementales? Eh bien, à des innovations techniques qui ont permis aux compagnies pétrolières et gazières de repérer et d'exploiter de nouvelles ressources. La révolution des gaz et pétrole de schiste a permis de libérer des quantités inimaginables il y a 10 ans. Les technologies du forage horizontal et du fracking ont rendu l'approvisionnement en pétrole et en gaz pléthorique. Le peak oil annoncé il y a 15 ans a été reporté à plus tard. Mais ce n'était qu'un début. Les systèmes intelligents, l'analyse de data, l'automation sont en train de booster le secteur de l'énergie et de lui conférer une flexibilité qui lui faisait défaut. Les compagnies pétrolières se servent des technologies pour repérer les ressources et les extraire, y compris dans des environnements géologiques difficiles. Autrefois, extraire le pétrole ou le gaz en eau profonde réclamait des équipements si chers que c'en était dissuasif. Lorsque le prix du pétrole descendait sous un certain seuil, on renonçait à aller le chercher si profondément. Eh bien, tel n'est plus le cas. Les énormes gisements sous-marins du golfe du Mexique reviennent à 40 ou 50 barils de dollars. Dollars le baril. Dans un proche avenir, les robots sous-marins capables de travailler au fond des océans s'occuperont eux-mêmes des oléoducs. Alors, le maintien de ces prix très faibles n'est pas une bonne nouvelle pour le climat, car nous ne sommes pas incités à nous passer des hydrocarbures. Reste que les innovations technologiques bénéficient aussi aux renouvelables, et de ça, on en parle demain.
Le propre des travaux de prospective économique est d'être faux dès qu'ils sont publiés.
Oui.
C'est vrai que
c'est un économiste
la prospective,
qui dit ça.
Ça marche mieux en fait avec le passé. Et oui. Encore. Merci beaucoup Brice Couturier. Vous retrouvez évidemment demain pour la suite de cette série consacrée aux énergies.